Mesdames, Messieurs, j'ai d'abord conscience qu'à la seule évocation de cette conférence de presse dédiée au Covid, nombre d'entre vous ont pu ressentir un sentiment de lassitude, de jours sans fin, ont pu se replonger dans les périodes difficiles que nous avons vécues collectivement depuis près de 2 ans.
Bon, je ne crois pas que ça a un lien direct avec le retour de la conférence de presse du jeudi, celle où Olivier Véran et les autres ministres égrènent le chapelet des restrictions. Mais ceux qui ont replongé, et alors immédiatement, ce sont les investisseurs. Hier à la Bourse de Paris, pire séance depuis le 18 mars 2020, au moment de l'instauration du premier couvre-feu, et ça a été un peu partout. La même panique avec ce retour du virus de New York à Tokyo. On a vendu les actions des compagnies aériennes et des sociétés de tourisme, et puis les cours du pétrole, ils ont chuté de 10%. Alors le variant a déjà suspendu des vols avec l'Afrique. Fera-t-il fermer des frontières? Fera-t-il dérailler la reprise économique? Ce matin, on peut regarder dans le rétro et on se rend compte que à chaque nouvel épisode de restriction, à chaque nouveau choc, eh bien l'économie, elle s'en est mieux sortie. Nous avons appris à produire et à acheter malgré tout. Donc ce nouveau variant va sans doute peser sur la reprise, mais il ne nous emmène pas tout droit vers la récession du premier confinement. Et puis tiens, une info intéressante pour les marchés financiers. C'est une étude citée par les Échos. Si, à cause d'Omicron, c'est le nom de ce variant, les traders sont renvoyés du bureau pour travailler chez eux, eh bien, il y a moins de chances qu'ils commettent des manipulations et des malversations. Mais bien sûr, imagine-t-on le loup de Wall Street en télétravail ?
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Bienvenue, c'est le magazine d'économie de la rédaction et on n'attendait plus que vous pour mettre sur la table les idées et les faits qui la font tourner, cette planète éco. Ce samedi, notre invité est un industriel de taille mondiale, un fleuron tricolore et puis l'entreprise qui a la meilleure image auprès des Français, c'est ce que je lis dans le dernier baromètre Posternak. Cette entreprise, c'est Michelin. Florent Ménégaud, son président, sera dans ce studio d'ici moins de 20 minutes. Des nuages noirs sur la reprise, oui, le Covid, et puis surtout pour l'industrie, ce problème de pénurie qui met des usines à l'arrêt. La filière automobile est touchée en particulier par le manque de puces électroniques. Comment s'en sortir? Vous entendrez le reportage de Maxime Debs. Madame Vie au boulot est bien sûr avec nous pour répondre à toutes vos questions de Vie au boulot. Ça sera juste avant 10h. Bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour Alexandra.
Question de
Salomé. Vous savez, jeudi, c'était la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Et Salomé se demande pourquoi les entreprises ne sont pas plus actives pour contrer ce fléau.
Eh bien la réponse, ça sera juste avant 10h, on vous retrouve tout à l'heure Sandrine. Tout de suite le débat avec Sophie Fay de l'Obs qui est avec nous ce matin. Bonjour Sophie et bienvenue.
Bonjour Alexandra.
Et face à elle, le directeur de l'Institut Montaigne, Laurent Bigorne.
Bonjour.
Bonjour Laurent. Juste un mot tous les deux si vous voulez bien, cette cinquième vague, le retour du virus, le variant Omicron, je vais arriver à le prononcer. Qu'en pensez-vous, Sophie? Est-ce que ça peut faire dérailler la reprise?
Bah écoutez, hier matin, on était encore optimiste puisqu'on avait eu cette étude de l'INSEE la veille qui nous montrait que vague après vague, l'économie réagit mieux, s'adapte et que finalement, ça n'a presque plus d'effet, ces nouvelles vagues, sur l'activité économique. Mais hier soir, les instituts de conjoncture ont commencé à prévenir qu'ils allaient réviser à la baisse la croissance. Donc on commence à s'inquiéter. Celui-là a l'air très méchant, mais encore une fois,
coup de frein.
Alors pas sur pour cette année qui est en cours, c'est joué, mais ça pourrait se ressentir un peu en début d'année prochaine.
Laurent Bigorne, votre regard, vous?
On va attendre que les laboratoires, effectivement, qui sont les plus en pointe sur le vaccin, notamment ceux à ARN messager, qui nous sont toujours d'être capables d'adapter leur vaccin en des temps assez courts, nous disent. Sous 15 jours, je crois, hein, si
oui,
Omicron est susceptible de trouver une porte dérobée par rapport à la stratégie de vaccination, c'est la vraie différence par rapport à l'hiver dernier. Par rapport à cette saisonnalité manifeste de la Covid, on a des populations, notamment en France, qui sont extraordinairement bien vaccinées, avec les deux doses et un taux très, très important. Il y a une meilleure maîtrise aussi d'un certain nombre, j'allais dire, de techniques qui vont du télétravail jusqu'à la distanciation sanitaire. Avant Omicron, on avait quand même quelques inquiétudes parce qu'on sait que le poumon économique de l'Europe, dont on va parler, l'Allemagne, était sur une pente où à la fois le climat des affaires s'était dégradé et où la vaccination n'a pas nécessairement suivi et les phénomènes, vous en avez parlé, d'inflation, inquiétaient les industriels. Donc il y a une conjoncture qu'il faut aussi regarder.
Des nuages noirs.
À nos portes. Exactement.
Eh bien parlons de l'Allemagne alors, puisque vous avez fait la transition tout seul, Laurent. Votre sujet préféré, on veut tout savoir sur notre partenaire outre-Rhin dans les prochaines années. Que voudra l'Allemagne d'Olaf Scholz? Que nous dira-t-elle? Qu'exigera-t-elle? Ben ça y est, on a l'accord de coalition.
Olaf Scholz, the next German chancellor, that's as a social democrat.
Le successeur d'Angela Merkel, le social-démocrate Olaf Scholz, prendra les rênes de l'Allemagne d'ici à une douzaine de jours.
Heute mit der Präsentation des Koalitionsvertrags.
Deutschland steht zu seiner Verantwortung.
L'Allemagne assume ses responsabilités dans le cadre de l'Union européenne.
Olaf Scholz.
Nous sommes un grand pays au centre de l'Europe. Nous ne resterons pas sur le banc de touche à commenter, mais nous comptons bien agir pour faire l'Europe la plus forte et la plus souveraine possible.
Sortie accélérée du charbon, politique climatique ambitieuse, légalisation du cannabis, retour à la rigueur budgétaire. Tels sont les principaux points d'un document qui fait près de 180 pages.
Retour probable de la rigueur budgétaire en Allemagne, ça signifie quoi pour nous ?
Aujourd'hui, nous sommes dans une période de posture.
Jean-Hervé Lorenzi, fondateur du Cercle des économistes.
Le gouvernement vient d'être constitué. C'est une coalition étrange des libéraux, des Verts et de SPD. Et il faut bien que chacun affirme sa position. Le jeune ministre des Finances affirme ce qu'il doit affirmer. Il aurait dit l'inverse. Vous auriez dit l'Allemagne est en train de devenir absolument ingouvernable.
Il y a un document de plusieurs dizaines de pages avec un ensemble de mesures extrêmement détaillées. Donc on est bien au-delà de la posture. Hein.
Benjamin Coria, professeur d'économie à Paris 13.
Et dans les mesures détaillées, on a cette hausse du SMIC de 9,60 euros à 12 euros. Je veux dire, l'Allemagne est fidèle à elle-même. Elle joue la compétitivité par le haut. On fait le contraire de la France. On est en train d'ubériser, de flexibiliser dans tous les coins et on s'étonne de perdre en compétitivité.
Cette Allemagne du futur chancelier Olaf Scholz, c'est une alliance inédite entre les sociaux-démocrates, les Verts et les libéraux du FDP. Alors, on va poser des questions ce matin sur notre nouvelle partenaire, Sophie Fay. On peut commencer à visiter la galerie de portraits, en fait. Hein. Scholz, Lindner, Baerbock, Habeck, dites-nous un peu qui sont ces gens. Allez, on va commencer avec Olaf Scholz. On connaît
oui.
lui.
Oui, lui, on le connaît bien. Surtout celui qu'il connaît très bien, c'est Bruno Le Maire, puisque ça fait 3 ans, presque 4 ans, qu'ils sont ministres des Finances ensemble. Donc, il est assez à l'aise sur ce terrain-là. Alors, Olaf Scholz, il va avoir le rôle difficile de tenir tous les bouts, parce qu'en dessous de lui, il a 2 ministres sur les questions économiques qui sont très opposés. Donc, d'un côté, il y a Christian Lindner, qui sera le ministre des Finances. Donc,
libéral du FDP.
Qui est libéral du FDP, qui a 43 ans, et que les Allemands surnomment Selfie Madman, donc parce qu'il a fait sa carrière en politique et qu'il a une très haute, enfin il fait beaucoup de selfies quoi, donc, très grande image de lui. Alors lui, ça va pas être facile parce que il représente vraiment les Allemands soucieux de leurs économies, très rigoureux sur les finances, qui veulent pas de dette, qui veulent pas de déficit, qui veulent surtout pas payer pour les autres, pas payer pour les Grecs, pas payer pour les Italiens, pas payer pour le reste de l'Europe. Donc il va falloir qu'ils tiennent ça et en même temps qu'ils financent un grand programme d'investissement. Donc on va voir, mais il va essayer de parler à cette frange-là de l'Allemagne. Et puis de l'autre côté, on a Robert Habeck. Alors là, c'est autre chose. Hein. C'est un quinca plutôt jugé cool. Un Vert ultra réaliste qui a travaillé avec des coalitions de conservateurs, de socialistes, qui connaît bien cette nécessité de faire des compromis et qui, lui, a un ministère de l'économie.
Dingue.
Économie, énergie et climat. Et lui, il va vouloir dépenser de l'argent pour faire la transition climatique à fond. Et donc, je ne sais pas comment va faire Bruno Le Maire entre ces deux partenaires.
En tout cas, ils ont réussi à signer leur accord de coalition. Laurent Bigorgne.
Oui, il y a du métier. Hein, parce qu'une des choses qu'on pourrait presque mettre au regard de ce qu'a été la ligne directrice d'En Marche, c'est qu'on a des hommes d'expérience. Scholz, c'est quelqu'un qui fait de la politique depuis qu'il a 17 ans. Lindner, il s'est engagé chez les libéraux, il avait 15 ans. Et c'est des gens qui ont une pratique politique qui va aussi énormément marquer les mois qui viennent. Prenons un exemple. Lindner, c'est l'homme qui a vécu le traumatisme de la première fois où son parti, depuis qu'il existe, n'a pas été au gouvernement, n'a même pas été représenté au Bundestag en 2013. Et c'est quelqu'un qui a refusé une grande coalition et qui a fait échouer la grande coalition de 2017 parce qu'il avait le sentiment que les conditions n'étaient pas réunies. Et ces échecs qu'il a connus comme patron de son parti vont être importants parce que il est convaincu que les libéraux perdent quand ils ne tiennent pas leurs promesses. C'est-à-dire quand ils ne sont pas rigoureux du point de vue des finances publiques et quand ils ne baissent pas les impôts. Donc on va avoir un homme de selfie, Sophie a totalement raison, mais aussi un homme de grande intransigeance. Quant à Scholz, il faut absolument pas faire ce qu'ont fait les Allemands dans un premier temps, c'est-à-dire minimiser sa présence dans l'espace public. D'abord, c'est un type qui a une résilience extraordinairement forte. Il l'a montré dans la crise, dans la gestion de la crise économique en lien avec la pandémie. Il l'a montré en juillet dernier quand l'Allemagne était inondée, où il a mis les bottes et il est allé sur le terrain. Et c'est quelqu'un qui n'a pas eu peur non plus, à l'époque du chancelier Schröder, rappelez-vous, au début de l'année 2000, d'être plutôt à la droite du parti et de faire des réformes difficiles sur le marché du travail. Il était d'ailleurs ministre du Travail dans une première partie de sa vie politique. Donc, on est face à des gens qui ont une histoire politique, qui se connaissent, qui ont des visées différentes, mais qui maintenant ont rédigé un texte de 177 pages et qui vont mettre en œuvre.
Et que vont-ils vouloir faire, Sophie Fay? On a plusieurs chapitres. Hein. On a le salaire minimum, l'énergie, vous en avez parlé. On a une conception de la dette qui intéresse évidemment les Français. On commence par quel chapitre avec vous?
Le salaire minimum, quand même, hein, c'est une bonne nouvelle. Il va passer de 9,35 euros à 12 euros, c'est beaucoup.
Alors bon, c'est plus que la France.
C'est plus que la France. Ça concerne pas tout. Ça concerne 10 millions de personnes, quand même. Il y a beaucoup de branches où le salaire était déjà au-dessus de ça, donc qui seront pas concernées. Mais c'est quand même une bonne nouvelle. Et ça, bon, ça montre qu'il y aura quand même une relance par le pouvoir d'achat. C'est un vrai sujet en Allemagne, puisque on voit bien que l'inflation augmente plus vite que chez nous. Et puis surtout, ce qui est quand même ce qui fait plaisir, c'est le titre que s'est donné, le slogan que s'est donné cette coalition, c'est oser plus de progrès. Et donc, il va y avoir de l'investissement, investissement dans le numérique, investissement dans les infrastructures, investissement dans le logement, c'est massif. Les Allemands sont majoritairement locataires, ils sont très sensibles au prix des loyers. Et donc, c'était un gros sujet dans la campagne. Et là, le gouvernement a annoncé, enfin, cette coalition a annoncé que le gouvernement qu'elle formerait ferait 400 000 logements de plus.
Par an, en effet. Laurent Bigorgne, ce thème du salaire minimum, que l'Allemagne augmente son salaire minimum à 12 euros, ça a une incidence? Pour nous, on se dit, ah bah tiens, si l'Allemagne
fait. C'est effectivement intéressant. D'abord, il va falloir avoir une méthode. Est-ce que ça va être une mesure imposée? Est-ce qu'elle va être discutée? Et donc, on nous dit qu'elle pourrait toucher 10 millions de personnes, ce sera dès l'année prochaine. C'est quand même un pays, l'Allemagne, où le dialogue social est roi. Et donc, il va falloir voir comment le sujet entre dans la discussion. J'ajoute que quand vous regardez économiquement, c'est vrai qu'actuellement, ils sont, je crois, à 9,60 de l'heure. Nous, on est à 10,25 en France. Ils vont passer à 12. Regardez le différentiel de niveau de vie par tête entre les deux pays. Il est de 20%. Donc en réalité, nos salaires minimums en France et en Allemagne sont désormais, avec ce salaire minimum à 12 euros, étroitement calés sur le niveau, la richesse par habitant dans les deux pays, avec ce décalage, 10-12, ce décalage de 20%. Donc attention aux effets de perception, évidemment. Maintenant, un point sur ce salaire minimum. Assez curieusement, les Allemands disent, on veut mettre en œuvre chez nous, d'accord, il va falloir regarder la méthode. Quand on regarde le chapitre sur l'Europe sociale du document de 177 pages, pas de salaire minimum européen, surtout pas. N'allons pas toucher aux pays, notamment d'Europe centrale et orientale, qui sont les pays vers lesquels on envoie de la production industrielle aujourd'hui.
Absolument, les
Donc,
Allemands
c'est
envoient
toujours
des...
le double standard. Ouais. Hein. C'est toujours le double standard.
Sur la dette, ça c'est un chapitre qui nous intéresse. Vous dites, Sophie, que les Allemands vont vouloir faire énormément d'investissements. Est-ce que on entend cependant qu'ils vont être, ils vont vouloir retourner finalement peut-être au pacte de stabilité. En tout cas, ils vont vouloir mettre des limites assez rapidement. Le quoi qu'il en coûte, c'est bien fini pour eux.
Oui, alors ça c'est quand même un point un peu. Pas clair de cet accord de coalition. D'un côté, ils disent on va faire ces investissements massifs, de l'autre, ils disent on revient à l'équilibre budgétaire et on veut pas trop dénaturer les règles. Alors, ce qu'ils expliquent, c'est qu'ils vont passer par une institution qui s'appelle la KfW, dont on va augmenter le capital, et c'est elle qui va investir. Alors, la KfW,
leur banque publique d'investissement.
Voilà, alors on lui donnerait plus de capital et elle emprunterait. Où elle travaillerait avec des acteurs privés pour investir plus. Il voudrait que ce soit quand même un moyen d'accélérer l'investissement privé qui était aussi un peu insuffisant en Allemagne. Et puis ils veulent faire la même chose pour le logement. La question, c'est qu'on voit pas très bien comment ça va être suffisant pour être à la hauteur de l'ampleur des investissements. Par exemple, ils ont un autre objectif dans cet accord de coalition, c'est la sortie du charbon avant 2030 et sans nucléaire. Donc ils veulent décarboner leur économie et pour ça, il faut investir 4 fois plus dans les renouvelables. Il va falloir aider tout ça et on ne sait pas très bien comment on le fait sans creuser davantage le déficit. Ça sera très intéressant parce que s'ils ont trouvé la formule magique, ça pourrait être très utile aussi au niveau européen.
Laurent Bigorne.
Oui, moi, alors, je ne crois pas du tout à la formule magique. Alors, effectivement, ils nous disent on va être plus ambitieux que prévu puisqu'ils devaient sortir du charbon en 2038. On va plutôt le faire en 2030. On va porter à 80% et non plus 65% la part des renouvelables. Elle est de 43% au premier trimestre cette année. Et on sait que les éoliennes vont recouvrir 2% du territoire allemand, c'est-à-dire qu'on va doubler les surfaces dédiées aux éoliennes. Dans le rapport de RTE, paru récemment sur la situation énergétique de la France, un des points qui avait été soulevé, c'était celui de l'acceptabilité des champs d'éoliennes, parce qu'on leur consacre toujours plus de place avec une acceptabilité qui diminue. Mais il y a des silences dans ce que nous disent les Allemands. La place du gaz...
Ils veulent construire des centrales à gaz.
Ils veulent construire des centrales à gaz, mais les silences, c'est ceux des Verts qui nous disaient avant la campagne, ah là, le gaz, c'est très mauvais. C'est très mauvais pour le bilan carbone, mais c'est aussi très mauvais parce que on est obligé d'accepter une relation avec la Russie qui est une relation mortifère pour nous. Subitement, les Grünen, vous parliez du réalisme tout à l'heure d'Abeck, un de leurs deux coprésidents, les Grünen, les Verts allemands, nous disent, bon, bah, finalement, on va moins parler de Nord Stream et on va être moins vocaux sur ce sujet. Mais quand on regarde, et Sophie a raison, quand on regarde la question du financement, ils s'engagent, les libéraux, les sociaux-démocrates, à alléger le prix de l'électricité pour les entreprises et les particuliers en supprimant dès 2023 la taxe qui finance les renouvelables. Comment est-ce qu'on va financer les renouvelables demain en Allemagne ? Par le budget, on nous dit, et on nous dit en même temps que ce budget va être tenu et que dès 2023, on va revenir à la loi de non-endettement, au-delà de 0,35 du PIB.
Oui.
Donc il y a des enjeux, il y a des non-dits, aussi bien en termes de politique extérieure qu'en termes de politique budgétaire.
Et pour nous, juste une dernière question, Laurent, pour les Français, ce partenaire et la relation de ce partenaire à l'endettement commun, est-ce qu'on sait dans quelle direction ça va aller? L'endettement commun européen, la mutualisation de la dette.
On sait que Scholz et Macron étaient plutôt en accord sur cette question, Lindner ne l'est pas du tout, et c'est là où Sophie a raison, il va y avoir pour Bruno Le Maire une espèce d'être à deux têtes, un Janus, avec Lindner et effectivement à Beck, et ça promet des débats, à mon avis, assez riches.
Allez, dernière question, Sophie Fay, vous mettriez combien, du coup, à cette copie?
Au-dessus de la moyenne, parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes, hein, la transition énergétique à fond, un discours sur l'immigration qui dit quand même que l'Allemagne va être une terre d'immigration.
Qui revendique ça.
Et qui est très... la vente contrôlée du cannabis, ça finit par être interdit. Il y a plein de choses intéressantes, donc largement plus que la moyenne, mais bon, comme on voit encore... Et puis, une déclaration dans cet accord de coalition, une déclaration pro-européenne, un engagement sur l'Europe, la souveraineté européenne qui est très fort, mais comme on ne sait pas très bien comment ils vont travailler ensemble, il faut quand même attendre de voir Prudence. Et de confirmer cet accord.
Laurent, la note à cette copie.
Moi, pour préparer l'émission, je me suis posé la question de savoir ce que serait la même coalition en France. Je me suis dit, au fond...
Vous l'avez imaginé.
Un Jadot qui accepterait le nucléaire, une Hidalgo qui accepterait une politique de compétitivité, un Macron qui accepterait de travailler avec les autres, ça pourrait faire une grande coalition.
Ok, ben on mettra ça sur la table aussi. Allez, l'économie comme elle se passe encore ailleurs ce matin. Et bien, ce matin, on vous propose une petite histoire pleine d'enseignements sur la puissance économique et comment on la reconnaît. Une petite histoire qui commence avec une blague.
I made a joke that the Communist Party is celebrating its 100th year. So is JP Morgan. And I'll make you bet we last longer. I can't say that in China. They probably are listening anyway.
Ha ha ha, c'est Jamie Dimon, le tout puissant PDG de JP Morgan. La plus grande banque américaine, et il fait rire hein, son auditoire à Boston en pariant que sa banque, elle va survivre plus longtemps que le parti communiste chinois. Je ne pourrais bien sûr pas dire ça là-bas, ajoute-t-il, et puis il sous-entend que de toute façon, Pékin écoute déjà. Bonjour Loïc Loury.
Bonjour Alexandra.
Vous êtes correspondant de France Inter aux États-Unis. Alors chez JP Morgan, on a pari longtemps compte tenu des intérêts de la banque en Chine. Et Loïc, Jamie Dimon, il s'est excusé plutôt deux fois qu'une.
Oui, absolument, et même littéralement, puisque Jamie Dimon s'est d'abord excusé une première fois dans un communiqué. J'essayais, dit-il, de souligner la force et la longévité de notre compagnie, sous-entendu, oubliez mon commentaire sur la Chine. Mais histoire d'être sûr que ses excuses soient entendues, eh bien, il s'y est repris une seconde fois, un peu plus tard. Ce n'est jamais bon, assure-t-il, de plaisanter ou de dénigrer un groupe de gens, que ce soit un pays ou ses dirigeants. Alors, pour comprendre cette intense séance d'autoflagellation, rappelons les intérêts sur la table. JP Morgan est devenue la première banque d'investissement étrangère autorisée en Chine. 20 milliards de dollars seraient en jeu. Or, ce n'est un secret pour personne. Le pouvoir chinois a très peu d'humour lorsque l'on touche à sa légitimité, d'où ce mea culpa instantané.
Jamie Dimon, alors comme vous dites Loïc, Dimon pourtant n'est pas né de la dernière pluie.
Non, c'est tout le contraire. En 2019, il avait d'ailleurs mis en garde ses équipes. Aucune référence à Hong Kong, Macao ou Taïwan comme étant des États indépendants. Le sujet est particulièrement sensible. Jamie Dimon critique régulièrement la politique de son propre pays. Il ne s'en excuse pas pour autant, mais la Chine, on ne touche pas. Le marché est déjà assez difficile à pénétrer. La déférence dont fait preuve le patron de la première banque américaine, en tout cas en dit long sur l'attractivité des débouchés chinois et sur la puissance économique de la Chine. Pas étonnant que le bras de fer initié par Donald Trump avec Pékin se prolonge sous d'autres formes avec Joe Biden. Les autorités chinoises, elles, ont réagi face aux excuses de Jamie Dimon. C'était la bonne attitude, dit un porte-parole particulièrement condescendant, évoquant une sincère réflexion de la personne concernée. Autant dire que la prochaine fois, Jamie Dimon y réfléchira à deux fois avant de plaisanter en public.
Loïc Loury, correspondant de France Inter aux États-Unis. Merci à vous Loïc et merci aux débatteurs de ce samedi 27 novembre, Sophie Fay et Laurent Bigorgne. (Rire) 9h34 sur France Inter, le président de Michelin vient de s'asseoir dans le studio 521. Bonjour Florent Ménégo.
Bonjour Alexandra Bétaillé.
Le bibendum, ça vient du latin bibendum, ça veut dire celui qui boit les obstacles.
Hein. Exactement.
Et ben ce matin, on va voir comment vous les buvez, les obstacles. La cinquième vague, par exemple. 124 000 salariés dans le monde, 39 usines en Amérique du Nord, 32 en Asie, 46 usines Michelin en Europe, 16 en France. Florent Ménégo, redoutez-vous le rebond du virus ?
Michelin a été projeté dans cette crise sanitaire en fait dès décembre 2019. Ça a démarré en Chine et comme nous sommes présents dans 174 pays, nous avons vu le virus se développer et ce qui nous a permis en fait d'anticiper en permanence ce qui allait se passer et de nous assurer qu'on était capable de fonctionner en ayant mis tous nos salariés en sécurité. Mmh. Et donc aujourd'hui, on a toutes les mesures sanitaires et tous les protocoles sanitaires qui nous permettent d'évoluer dans une configuration actuellement connue. Mmh. Notamment, nous fabriquons nos propres masques à Clermont-Ferrand pour toute l'Europe et nous avons aussi nos unités de production maintenant aux États-Unis et en Asie.
Donc pour l'instant, vous n'êtes pas particulièrement inquiet ?
Alors, la seule inquiétude qu'on a, c'est quand le monde est confiné. Parce que là, l'économie s'arrête, les gens ne circulent plus. Mais quand on a appris à vivre avec le virus, je pense qu'aujourd'hui, l'économie va continuer à tourner. Et on sait maintenant vivre avec le virus. Et d'ailleurs, le président de la République et le gouvernement l'ont dit il y a quelques mois. Moi, je l'avais dit... il y a maintenant assez longtemps, en disant il faut qu'on apprenne à vivre avec ce virus. Il
donc
y aura
y
des
est.
Tas de mutations, un peu comme la grippe chaque année, malheureusement. Et donc, il faut qu'on apprenne à vivre avec.
Alors, en France, le gouvernement, justement, n'impose pas le télétravail, comme lors des précédentes vagues. Mais Elisabeth Borne, la ministre du Travail, invite les employeurs à le favoriser. Est-ce que vous allez l'écouter ? Est-ce que vous allez renforcer le télétravail chez Michelin ?
Aujourd'hui... En fait, nous sommes pour le temps choisi et on se rend compte qu'il y a des moments où en télétravail, les personnes sont mieux, plus productives et d'autres moments où elles sont en détresse, en difficulté et rien ne remplace la présence physique. Quand il s'agit d'établir de la relation, quand il s'agit d'établir des relations de confiance entre les individus, quand il s'agit de travailler en commun, de créer en commun, être ensemble, c'est beaucoup plus facile. Alors l'écran, c'est une technologie incroyable qui nous a permis de ne plus être coupés du monde, mais ça ne remplace pas la relation humaine qui est beaucoup plus riche que ce qu'on peut faire à travers un écran.
Donc si je vous comprends bien, vous ne le renforcez pas aujourd'hui sur les sites, dans les bureaux de Michelin, donc, le télétravail.
Nous ne normons pas uniformément, sauf si la situation le demandait, mais le principe c'est de laisser chaque département, chaque situation décider quelle est la meilleure formule pour lui, tout en ayant bien acquis le fait que la priorité numéro un, c'est que tous nos salariés soient en sécurité.
Alors Florent Ménégo, pour l'instant la photo c'est celle quand même toujours d'une forte reprise de l'économie, mais il y a des nuages noirs sur certaines filières, dont celle que vous connaissez bien, la filière automobile, qui souffre de ne pas pouvoir acheter toutes les puces électroniques dont elle a besoin. Je vous propose qu'on écoute ensemble le reportage sur la pénurie de semi-conducteurs, et puis on va se retrouver ensuite. Ce matin, nous prenons la direction de l'usine Toyota d'Onin, c'est là que sont fabriqués par exemple les Yaris pour tout le marché européen, et voilà les lignes de production.
Bonjour, je m'appelle Ahmed Jourdan, je suis group leader sur la ligne habillage casse 1. Group leader, c'est chef d'équipe. En 21 ans, on n'avait jamais vu ça. Cette crise-là, elle est arrivée comme ça d'un coup. Il fallait pouvoir rassurer nos personnes et après se mettre en condition pour pouvoir forcément produire nos voitures. On a eu quand même à peu près un petit 27 jours de chômage. Là derrière, sur le mois de décembre, on n'a pas de jours de chômage. C'est une bonne nouvelle. En espérant que ça continue, mais j'espère que ça va continuer. Alors on a démarré tout doucement. Hein. C'est vrai qu'on a pris une petite cadence au début où on a fait 300 véhicules. Ensuite, on est monté en cadence petit à petit. Et là, on augmente bien pour arriver au mois de mars à une grosse cadence. C'est presque un miracle. C'est incroyable de pouvoir quand même produire aujourd'hui, alors que d'autres constructeurs sont à l'arrêt. Et le fait de pouvoir travailler convenablement, ben forcément, c'est que du bonheur. On le voit bien tous les jours en travaillant, que nos members sont quand même mieux.
Alors, c'est Sabrina, donc je suis TL, donc team leader à la ligne porte sur équipe bleue. Bah, il y avait l'ambiance où il y avait une inquiétude de justement de pas savoir pour le salaire, les jours travaillés. Et en même temps, le côté où ça faisait des longs week-ends, donc ça rassure un petit peu, on va dire, pour récupérer, quoi. Mais bon, c'est plus positif de reprendre le travail à temps plein et d'avoir un salaire complet aussi. On reste avec des questions en se demandant le fait qu'on ferme à Noël, est-ce que c'est pas ça qui va pallier le fait qu'il n'y a pas de pièces? Après, on dit que c'est que du positif et en espérant que ça continue parce que pour l'instant, on prend le jour au jour les nouvelles, quoi.
On apprend des mots à chaque crise, hein. Vous vous souvenez des subprimes? Eh bien, avec l'épidémie de Covid, on a découvert ce mot, les semi-conducteurs. Des micro-puces dont nos automobiles ne peuvent plus se passer, on en compte un millier, 1500 peut-être dans chaque véhicule, et même plus lorsqu'il s'agit d'une voiture électrique. L'essentiel des semi-conducteurs est fabriqué en Asie, Chine, Corée, Malaisie. Et après les approvisionnements bloqués par les confinements et les fermetures de frontières, voici pour les constructeurs un nouveau souci, les approvisionnements étranglés par l'explosion de la demande. Tout le monde veut des semi-conducteurs en même temps. C'est donc un électrochoc. Comment s'en sortir? Voici le reportage de Maxime Debs que l'on retrouve toujours dans l'usine Toyota d'Aune.
Je m'appelle Jim Crosby, je suis le président de Toyota Motor Manufacturing France, TMM. Ici, j'espère bien que c'est le bout du tunnel, bien sûr, c'est important pour nos employés et pour nos clients. Une crise comme la crise semi-conducteur, personnellement, je ne l'ai jamais connue comme ça. Là, aujourd'hui, on vient d'annoncer le plan de production pour le mois de décembre. Et là-dedans, il n'y a qu'un jour non travaillé, non production. Et on espère que cette tendance va continuer. Mais un des soucis avec cette pénurie, c'est la visibilité dans la chaîne d'approvisionnement. On n'a pas les chiffres précis encore pour le mois de janvier. Donc déjà, on travaille très étroitement avec nos fournisseurs, d'une part au Japon, mais partout dans le monde. Et c'est surtout avec cette liaison directe avec nos fournisseurs auprès de notre service d'achat qu'on a toujours essayé d'avoir le plus d'informations, le plus de visibilité possible. Mais j'espère que ça sera confirmé bientôt, qu'on peut retourner en pleine production pour l'année prochaine.
Un espoir, un optimisme loin d'être partagé par l'ensemble du secteur. Les PME, les sous-traitants de rang 1 et 2 par exemple, subissent depuis des mois les effets en cascade de cette pénurie. On quitte le nord de la France, direction Paris, en petite couronne, où l'un d'eux de ces sous-traitants a accepté de nous recevoir.
Mon nom est Pierre Boulet, je m'occupe de Novares depuis quelques années. Novares est un groupe international qui est un équipementier automobile spécialisé dans l'étude, la conception et la fourniture de pièces plastiques pour le secteur automobile. Donc nous équipons la quasi-totalité des constructeurs mondiaux. Donc au début de l'année, les volumes ont baissé et puis tout le monde nous a dit « Attention, il faut remplir vos magasins, il faut embaucher du monde, on va démarrer en début septembre, on va tout rattraper avant la fin de l'année ». Donc c'est ce qu'on a fait, on a gardé tout le monde, on a rempli les magasins, sauf qu'on n'a pas livré. Donc pour nous, il y a deux réalités, c'est que d'abord, on a des coûts, puisqu'on a embauché du monde et gardé du monde, et puis on a rempli les magasins, ben on a vidé nos comptes en banque. C'est vrai que ce qui a mis le feu aux poudres, on va dire que c'est le Covid qui a généré une forte demande de semi-conducteurs et qui a, comme l'automobile s'est arrêté, ben, été servi en dernier. qui a fait que les usines de nos clients se sont désorganisées et qu'ils ont fait un certain nombre de stop and go. Ces stop and go nous ont impactés puisque on n'a donc pas pu livrer ce qu'on devait livrer. Ça s'est répercuté en aval chez nous. Sur les 1 200 arrêts que nous avons eus, en gros 150 sont des stop and go avec moins de 48 heures de préavis. Donc, en fait, on ne peut pas s'ajuster quand c'est 48 heures. C'est-à-dire qu'on apprend le vendredi que le lundi, c'est fini, le client ne viendra pas chercher ses pièces. Pour ce qui est de cette pénurie elle-même, on a toujours des gens qui nous disent que début 2022, les choses vont s'arranger, puis que ça va aller mieux, etc. Je suis moins convaincu de ça, compte tenu des outils de production qui sont à mettre en place. J'imagine quand même pas que ça s'améliore significativement avant l'été 2022. Ça, c'est ma vision, ma boule de cristal à moi, que dans le T3, T4 2022, on aura une espèce de retour au volume, mais c'est pas sûr.
On entend l'incertitude, inquiétude d'une filière auto obligée après ça de se réinventer. Il y a des choses à faire, clairement. Plus jamais ça, s'accordent à dire les acteurs du secteur. Pour ça, la filière doit prendre le sujet à bras-le-corps, sans doute repenser son approvisionnement. Jean-Marie Robert supervise le dossier à la CFDT.
Pour rappel, l'automobile n'est pas un donneur d'ordre majoritaire pour la filière électronique. Pour pouvoir investir et s'accaparer ces technologies-là, effectivement, il faut un partenariat fort. Pour nous, ça veut dire qu'il faut être en capacité d'avoir une filière qui couvre l'intégralité des composants d'une voiture et qu'elle soit sécurisée. Voilà. L'image qu'on peut prendre, c'est un équipementier comme Bosch. Bosch qui n'est pas qu'un équipementier automobile, qui fait aussi l'électroménager, qui fait aussi de l'outillage électroportatif, a investi sur une usine pour produire des composants électroniques. Pour son propre compte, pour une bonne partie de son activité, et vraisemblablement finira par fournir quelques entreprises. Voilà. Donc il faut qu'on soit capable de sécuriser l'ensemble des composants qui constituent une voiture. Il faut vraiment réinterroger aussi toutes les relations au niveau de la filière, parce que là on a quand même un vrai paradoxe en fait entre, par exemple, des temps de cycle qui se mesurent en secondes sur les chaînes de montage, des délais de livraison qui se mesurent en mois, et des exigences clients-fournisseurs qui peuvent se compter en jours. Du jour au lendemain, on vous demande de faire ou pas faire, par exemple. Donc il y a vraiment tout ça à repenser pour que tout le monde retrouve un peu plus de détente, entre guillemets. Et on pense aussi qu'on aurait fort à gagner à redispatcher un petit peu les plaques de production. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien envisager une plaque Europe de l'Est qui travaille pour l'Europe de l'Est, Europe du Sud pour l'Europe du Sud et Europe du Nord pour l'Europe du Nord. À l'instar de ce qu'on peut entendre, travailler en Chine pour les Chinois, ça a vraiment du sens. Et en Inde pour les Indiens, ça en a tout autant.
Ce qui est à prendre en considération, c'est en tout cas l'urgence de la situation, sous peine sans doute de graves désillusions. Alexandre Marian, expert et directeur associé au cabinet de conseil Alix Partners, qui s'est penché à l'occasion de cette crise sur la question automobile.
Donc aujourd'hui, on estime à environ 8 millions de véhicules qui ne seront pas produits pour l'année 2021 et un manque à gagner pour l'industrie automobile de l'ordre de 210 milliards. Donc ça impacte quasiment tous les constructeurs. Certains ont été plus impactés que d'autres de par la façon dont leur chaîne d'approvisionnement était structurée. Par conséquent, on a vraiment besoin d'une stratégie affinée pour chacun des types de semi-conducteurs. Alors on voit des projets, on voit clairement des projets d'installation, de chaînes, de partenariats stratégiques, d'investissement en France. Cela étant dit, il faut compter minimum 18 mois, voire 24 à 30 mois pour installer une chaîne de semi-conducteurs. Et on parle pas d'une usine, on parle vraiment d'une chaîne. Donc le temps que les investissements soient décidés jusqu'à leur mise en place effective, en fait il faut beaucoup de temps et on ne voit pas un retour à la normale avant milieu de l'année prochaine. Un des points quand même très importants, c'est que les semi-conducteurs, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, parce que la pénurie empêche la production d'un certain nombre de véhicules, mais on voit qu'il y a un grand nombre d'éléments de la chaîne d'approvisionnement qui sont également perturbés, que ce soit des résines, que ce soit des métaux. Et quand on parle de risque de pénurie ou de risque d'inflation, c'est vraiment tout l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement automobile qui est impactée par ce problème.
La filière automobile mise en danger par les pénuries, c'était le reportage de Maxime Debs.
Tous les samedis sur France Inter à 9h10, on n'arrête pas l'écho, Alexandra Ben Saïd.
Et nous sommes toujours avec le président de Michelin, Florent Ménégo. Florent Ménégo, à quel point êtes-vous touché par cette pénurie de semi-conducteurs ?
Alors, nous sommes moins touchés que nos clients constructeurs automobiles parce que nous, les semi-conducteurs, on les utilise principalement dans nos machines de fabrication. Mais on manque, c'était dit en fin de reportage, d'autres pièces. C'est-à-dire qu'en fait, les phénomènes de perturbation dans toute la chaîne d'approvisionnement en amont de la production, elles sont très fortes. On manque de bateaux, de containers, de tissus textiles, d'acier, de pièces de moteur. Donc en fait, cette crise d'approvisionnement, elle est multiforme. Et en fait, on a, pour illustrer pour nos auditeurs, normalement, on gère une crise d'approvisionnement, une à deux crises par trimestre. Là, on a à peu près 10 crises ouvertes par jour.
Ça veut dire 10 réunions de crise par jour?
10 réunions de crise par jour sur des tas de phénomènes qui, tout d'un coup, arrivent. Alors, c'est par exemple, les bateaux qui partaient d'Asie, s'arrêtaient au Sri Lanka et puis ensuite arrivaient en Amérique du Nord, ne s'arrêtent plus au Sri Lanka parce que ça coûte trop cher de s'arrêter au Sri Lanka. Nous, on a une grosse usine au Sri Lanka, donc on a du mal à trouver des bateaux pour exporter la production du Sri Lanka.
Et quand voyez-vous cette crise des pénuries s'éteindre? Dans le reportage, on entend mi-2022, hein, c'est ce que dit le sous-traitant plastique.
Je pense que ça, c'est une vision optimiste. Je pense qu'on est plutôt parti pour... nous, on avait dit depuis le début que la crise, on devrait sortir de crise fin 2022, au plus tôt. Et là, compte tenu des perturbations qu'on remarque, on est probablement plutôt sur mi-2023, voire fin 2023.
Est-ce que ça génère? Ça génère, bien sûr, avec le prix de l'énergie, de l'inflation, toutes les matières premières, les goulets d'étranglement. Ça veut dire que le prix de vente des pneus, il va augmenter?
Le prix de vente, malheureusement, des pneus a augmenté parce que nous...
De combien? Il l'a déjà augmenté?
Il a déjà augmenté de quelques pourcents. En fait, parce que pour nous, industriels, il faut qu'on investisse, il faut qu'on continue à pouvoir nous développer, à développer les pneus de demain qui mettront tous nos clients en sécurité. Et donc, le seul moyen qu'on a de compenser la hausse des matières premières, c'est de faire de la productivité. Les gains de productivité, on en fait. Et donc, mais malheureusement, quand la hausse des coûts des matières est plus rapide que notre capacité à développer de la productivité, on est malheureusement obligé de répercuter à nos clients.
Et ça fait combien, quelques pourcents? En France, par exemple, si j'achète des pneus, désolé, je ne suis pas une spécialiste du prix du pneu, mais oui. Ça fait combien?
Mais ce qui est compliqué quand j'ai cette question, c'est que le prix d'un pneu Michelin varie entre 40 euros et 350 euros. Donc, quelques pourcents sur 40 euros, c'est 1 ou 2 euros, mais ça peut être 10 ou 15 euros sur un pneu de 350 euros.
Et si je rentre encore dans vos usines, vous parlez de productivité, donc vous demandez peut-être aux salariés des efforts aussi. Les salariés qui, eux, en ce moment, on le voit dans d'autres entreprises, disent ben, notre pouvoir d'achat est grignoté. Hein. Est-ce que ça génère un peu plus de tension que d'habitude, ou carrément de la tension, sur les négociations salariales? Est-ce que les salaires vont être augmenter chez Michelin, et de combien?
Alors, bien sûr, cette tension. Simplement, j'écoutais le début des reportages de l'émission. Il y a quasiment pas de salariés chez Michelin au SMIC. Donc, les personnes qui travaillent chez Michelin sont des personnes très qualifiées, et donc nos salaires sont beaucoup plus élevés que ces réalités-là. Mais bien sûr, la question du pouvoir d'achat se pose partout. Donc, nous avons décidé il y a maintenant 2 ans d'augmenter le principe de répartition du résultat, et notamment on a développé un bonus lié au résultat du groupe qui est disponible pour l'ensemble des salariés. Donc, quand le groupe performe correctement...
C'est de la participation?
La participation, c'est une forme juridique de ce principe-là, mais c'est la même idée. Et donc, nous avons un bonus spécifique qui sera réparti à l'ensemble des salariés. Et comme Michelin est très solide, et cette année fonctionnera correctement, je suis certain que l'ensemble des salariés vont en bénéficier cette année.
Bien. Est-ce que vous êtes touché par les pénuries, les difficultés de recrutement? J'ai entendu qu'il y avait 3 usines qui n'arrivaient pas à trouver des salariés.
Donc en fait, avec le Covid a accéléré une tendance qu'on voyait arriver, qui était un changement dans le rapport au travail. Et donc là, concrètement, on a quelques usines en France, une dans l'ouest de la France, une autre dans l'est de la France.
Dites-nous, elle est dans des villes, ça va peut-être générer des CV.
Oui, c'était à Troyes. Alors à chaque fois que j'ai dit ça,
Cholet,
j'ai toujours le président de la région qui m'appelle. Donc, mais je les ai déjà eus au téléphone. Hein. On s'est déjà parlé et je sais qu'ils sont très disponibles pour nous aider. Mais dans l'ouest de la France, à Cholet, à Troyes ou à Bourges, nous avons fait des campagnes de recrutement. Et là, pour la première fois, on a eu zéro candidature.
Pour combien de postes ?
Il y avait, alors, je me rappelle plus exactement, enfin, c'est quelques dizaines à Troyes, une bonne centaine à Bourges et je me souviens plus à Cholet, mais bon. Enfin, mais on le fait régulièrement. C'est la première fois qu'on n'a pas de candidature. D'habitude, on a énormément de candidats.
Alors pourquoi ?
Il n'en avait pas. Ben, on ne sait pas ce qui est du phénomène temporaire, d'un phénomène plus structurel. On ne sait pas encore.
Alors, parlons à présent, si vous voulez bien, Florent Ménégaud, de la réindustrialisation, parce que c'est un thème majeur de cette pré-campagne. Tout le monde a envie de voir des usines rouvrir en France. Je voudrais votre regard d'industriel. Est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'on peut y croire à cette réindustrialisation ?
Alors, moi, je parle pas de réindustrialisation, parce que les choses qui sont parties ont peu de chances de revenir, parce qu'elles sont parties pour des bonnes raisons, et les structures n'ont pas changé pour faire rapatrier des productions qui étaient parties à l'étranger. Maintenant, je crois beaucoup à l'industrialisation. Je crois beaucoup au fait que dans les nouvelles technologies, et notamment en France, il y a la possibilité d'investir. Michelin, avec Faurecia, nous allons poser la première pierre dans quelques jours.
Le 9 décembre.
D'une nouvelle usine de fabrication de piles à hydrogène dans la région de Lyon. Donc bien sûr, Michelin a développé, avec une autre entreprise française, FIV, une usine de production de machines, des imprimantes 3D métal, qui permettent de faire de la fabrication additive en métal. Donc, sur toutes les nouvelles technologies, moi je suis absolument convaincu que la France a énormément d'atouts et qu'on peut parfaitement investir. Donc je ne parle pas de réindustrialisation au sens de rapatriement d'usines qui étaient déjà parties, mais par contre je parle d'industrialisation. Il y a beaucoup de possibilités en France.
Mais est-ce que ça fait des emplois, c'est toujours la question, parce que ces nouvelles usines, on sait bien qu'il y a beaucoup de robots. Michelin, c'était une entreprise qui dans les années 80 embauchait 46 000 personnes. Là, on va passer à moins de 20 000. Ça fait plusieurs années que vous faites des plans de restructuration. Vous expliquez qu'il y a les pneus chinois qui vous attaquent. Bon, est-ce que cette tendance, par exemple, à la baisse des effectifs chez vous, chez Michelin, ça peut être inversé ou pas ?
Alors, je vais vous donner un exemple. Je pense que la France est en retard en matière de robotisation et de cobotisation. Ce sont des robots qui cohabitent avec les humains. Je pense que la France, de ce point de vue-là, est en retard. Développons plus d'usines de fabrication pour fabriquer des robots en France. Donc, il faut pas regarder une entreprise, c'est un organisme vivant qui doit s'adapter en permanence à son environnement. Donc, elle évolue. Mais ça ne veut pas dire que des métiers du passé peuvent continuer à exister, mais par contre, il y a des métiers du futur qui vont exister. Donc, je prends l'exemple de Michelin en France. Nous avons des nouveaux métiers qui sont apparus dans le digital, par exemple. Nous avons créé des centaines d'emplois en France, à Lyon, différents endroits, autour de l'intelligence artificielle, autour de la science des données, etc. Donc, alors, il y a moins d'agents de production de pneus, mais il y a plus de salariés dans d'autres types de fonctions.
Florent Ménégaud, le président de Michelin, merci d'avoir accepté l'invitation d'On n'arrête pas l'écho.
Merci à vous.
Ma vie au boulot, Sandrine Foulon, c'est Salomé qui vous a écrit. Elle a manifesté samedi dernier avec le mouvement Nous Toutes. Avant-hier, c'était la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Et Salomé vous demande... pourquoi le monde du travail ne s'empare toujours pas du sujet ?
Alors, ce qui avance, Salomé, c'est la libération de la parole des femmes, une parole qui fait masse, qui fait plus de bruit, qu'on écoute un peu plus depuis l'affaire Weinstein, qui concernait d'ailleurs des agressions sexuelles dans le cadre du travail, celui du cinéma. MeToo s'est démultiplié. On en trouve des déclinaisons dans le théâtre, le sport, mais aussi dans la pub ou les agences de com, avec les mouvements Balance ton agency ou Balance ta start-up, qui dénoncent sur les réseaux sociaux des violences sexuelles, sexistes et des conditions de travail travail dégradé. Ce qui n'avance pas, ou peu, vous avez raison Salomé, ce sont les résultats. Le travail n'est pas toujours un havre de paix pour les femmes. La sociologue Rachel Silvera rappelle des chiffres inquiétants. 80% des femmes salariées affirment être régulièrement confrontées à des attitudes ou comportements sexistes. Un quart des agressions sexuelles sont commises au boulot. C'est aussi le cas de 5 à 7% des viols ou tentatives de viol. 5%, ça peut sembler peu, mais ça veut dire que chaque jour, 13 femmes subissent un viol ou une tentative de viol sur leur lieu de travail.
Alors le chiffre est stupéfiant. Mais comment empêcher, Sandrine Foulon, que ces agressions se produisent entre les murs de l'entreprise ?
Eh bien, il y a des programmes de formation, des numéros verts, des référents désignés pour gérer le harcèlement et les agressions sexuelles. Mais 80% des entreprises ne possèdent pas de plan de prévention des violences, alors qu'elles doivent assurer la protection de leurs salariés, rappelle Rachel Silvera. Les syndicats réclament des formations obligatoires pour les managers dans les entreprises. Il s'agit de protéger les salariés contre les agissements en interne, mais aussi contre l'extérieur. Le lieu de travail est le premier endroit où les maris et ex-conjoints violents vont chercher leurs victimes. Faciliter une mutation, accorder des horaires flexibles ou des jours de congé peut être une solution. Mais il faut pour ça que les femmes puissent s'exprimer en toute confiance. Elles ne le font pas, même quand les violences ont lieu dans l'entreprise. 70% d'entre elles n'en parlent ni à un supérieur, ni à un délégué du personnel, et seuls 5% portent plainte. Tout l'enjeu est de faire en sorte que la peur change de camp. Ça commence, Salomé, mais ça prend du temps.
Sandrine Foulon, les coulisses du monde du travail. Posez-lui vos questions, ça se passe dans la boîte aux lettres d'On n'arrête pas l'écho, @radiofrance.com, et vous pouvez bien sûr passer par la page de l'émission. Merci à vous Sandrine, merci à Valentin Pérez qui prépare cette émission avec moi, à Céline Hilla à la réalisation, et puis ce matin à la technique, à Laurent Baudouin et Guillaume Roux.